radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 1h. Ici, soutien la musique locale.
Écoutez, j'aime Lorca, on s'aime.
Pas le temps de parler pour rien. Moi j'attends qu'on se tienne la main. Ce soir, c'est juste toi et moi. Une histoire d'amis, non j'en veux pas.
Ce très jeune artiste a adopté la Bretagne et le pays de Ploërmel pour en faire son espace de création. Déjà repéré et soutenu par des musiciens comme Gizmo du groupe Trio, il propose des chansons au style frais et léger.
On s'aime, avec toi je le sais, rien n'est plus pareil, non. À chaque fois, je ne sais plus comment dire je t'aime. Oh, on s'aime. Nanana, 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 nanana. On s'aime.
J'aime Lorca, on s'aime.
On s'aime.
Un coup de cœur, ici Bray Zizel.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici mène.
Le circuit Bugatti, lieu mythique et terrain de jeu parfait pour l'événement qui anime chaque année la fin d'août en Sarthe, j'ai testé pour vous les 24 heures vélo Skoda. 16e édition, sportifs, entreprises, associations, bandes d'amis ou même solitaires un peu fous, les 3200 coureurs sont tous là. Parmi eux, notre équipe ici mène, radio officielle de l'événement et ses 8 coureurs, Marie, Prune, Grégory, Gaël, Axel, Fabien et moi-même ainsi que Julien. Auditeur vainqueur du concours. Après avoir installé notre campement dès le vendredi dans le camping du Hou, direction le box 26 dans les paddocks. Samedi matin, quelques tours de reconnaissance, un défilé de vélos en tout genre pour la matinale Maine Libre, un briefing et un repas partagé tous ensemble au restaurant Le Paddock à quelques heures du départ. C'est Julien, l'auditeur vainqueur du concours qui va se mettre en place sur la ligne droite. Un départ type Le Mans, le cycliste doit courir vers le vélo. Dossard 8006. Toutes les conditions sont réunies pour que le départ soit parfait. Ça y est, l'ambiance est complètement folle. Heure après heure, l'équipe d'Issimène se relaie. J'entame le mien à 22h sur un vieux vélo Bianchi vert collector que m'a gentiment prêté Gaël de l'équipe technique. Et la nuit, je peux vous dire que l'atmosphère est vraiment spéciale. À certains endroits, seul le bruit des roues se fait entendre. Surtout celle du peloton de tête qui file à toute allure tel un essaim d'abeilles et que vous avez intérêt de laisser passer si vous ne voulez pas finir sur les vibreurs. Après mon deuxième relais, à 6h du matin, sous un lever du jour magique, je m'apprête à m'élancer à 14h pour l'arrivée. Il fait chaud, mais l'énergie est là, le soutien est immense, les tribunes du haut sont remplies, les supporters amassés le long de la ligne droite et de la redoutable montée du Dunlop pour nous donner du courage. Après plusieurs tours sous la chaleur, je regarde ma montre, il est 15h, il faut tout donner pour l'arrivée. Alors, je pédale à fond, je bois toute mon eau, je passe la ligne droite, sauf que j'aperçois une pancarte qui annonce... Encore un tour. Coup dur, j'avais rien compris. Mais impossible de lâcher avec une telle ambiance et un tel soutien. Donc on y retourne. Et ça y est, cette fois, c'est la bonne. Après 24 heures de course et 177 tours pour Issimène, on a déjà l'impression que tout ça est passé trop vite. Peu importe le podium, on retient les sourires, la fête et l'entraide. Une vraie aventure humaine qui vous fait dépasser vos limites et qui vous offre un vrai moment différent avec vos collègues. Alors, pour toutes ces raisons, on peut le dire, les 24 heures vélo, c'est testé et approuvé par Issimène.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici, Pays d'Auvergne.
Me voilà devant le gymnase Honoré et Jean Fleury. Quartier Coubertin, quoi. Alors, il y a les gars de la ville, là, qui sont en train de nettoyer tout ça. Les rues. Bon, je vais aller les embêter un petit peu. Peut-être même essayer de conduire, aller savoir. Sur un malentendu. Bonjour. Je voulais savoir si je peux monter avec vous pour voir comment ça marche, votre petite machine.
On n'a vraiment pas le droit.
Oh, mais juste un petit tour.
Si vous voulez. Oui, ok, d'accord.
Merci. Le volant est à droite.
Oui. Quand on n'est pas habitué, ça fait drôle la première fois, en fait.
Eh ben, il faudrait aller conduire en Angleterre.
Oui.
Comment ça marche, cette affaire ?
C'est un joystick, c'est-à-dire qu'on fait descendre le joystick, les balais descendent, la machine démarre, on passe la vitesse 1, et puis voilà.
Alors, bon, les baleines nettoient, donc ça envoie de l'eau et tout.
Ça envoie de l'eau, puis après... ça ramasse toute la merde, si on peut dire comme ça. Ouais.
Voilà. Et ça la met où, toute la merde?
Ça la met dans la... Il y a une cuve à l'intérieur, ça la met tout à l'intérieur. Et après, quand en fin de matinée, on va vider.
Vous la videz où?
On la vide au jardin, le coq. Il y a une benne affrétée exprès pour...
Ah, d'accord.
Voilà.
Vous êtes en train de faire un gros bouchon.
Mais c'est le service public. Mais après, c'est les premiers à être contents quand c'est propre.
Je peux conduire?
Non.
Eh bien, il y a une autre petite voiturette. Tiens, on va aller le voir.
Bonjour.
Ah, c'est pas la même que celle de Jocelyn?
Non, parce que lui, c'est une balayeuse et nous, c'est une labeuse. Et il passe derrière nous.
Ah, ça y est, j'ai compris le truc. Je peux conduire?
Ah non, là, je peux pas, là.
Il y a un degré de conducteur. Il y a des conducteurs, ils conduisent les balayeuses et les autres, ils conduisent les laveuses.
Oui, parce que là, il faut passer un cassesse. Parce que pour une balayeuse, il faut avoir le poids lourd et voilà.
Bon, Fabrice, il paraît que c'est vous le rigolo de la bande.
Peut-être. Vaut mieux rire au boulot que ça la gueule.
Moi, quand on a un Karcher comme ça dans les mains, on n'a pas envie parfois de donner un petit coup de Karcher de temps en temps, de faire des blagues, quoi.
On n'a pas trop le temps.
Bon, une petite blague vite fait sur un passant. Je peux essayer?
Non.
Oh, ah, non. J'ai essayé de conduire, mais personne ne veut me prêter son matériel.
Non, c'est interdit.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Belfort-Montbéliard. Lucas Vanitou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de l'association Belfortaine Objectif Égalité, qui existe depuis combien de temps?
Nous entrons dans notre 7e année. J'ai créé l'association avec mon ancien animateur jeunesse à la ville de Belfort en 2019. Nous avons deux pôles au sein de l'association. Un pôle famille avec lequel nous réalisons des animations socio-éducatives, socio-culturelles, directement au pied des immeubles, et des projets collectifs avec elle. Et puis un pôle jeunes solidaires dans lequel nous réalisons des animations plutôt sur la thématique qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale.
Quand j'entends international, ça veut dire que vous allez parfois très très loin pour réaliser ces projets?
Alors ça nous arrive, oui. Tous les deux ans, on porte un projet fort qui s'appelle les périples solidaires et culturels. Et nous avons déjà financé à distance, pour raison Covid, on n'avait pas pu s'y rendre, au Cambodge, trois puits, aux Philippines. Nous sommes en relation avec une école. Et puis dernièrement en Indonésie, en novembre dernier, avec un nouveau groupe de jeunes, nous sommes rendus là-bas.
Des jeunes de quel âge et qui ont fait quoi?
Alors des jeunes de 16 à 19 ans, dont c'était la première expérience à l'international, qui ont travaillé pendant plus d'un an pour réaliser des actions d'autofinancement leur permettant de se rendre sur place, certes, mais aussi et surtout de partager vraiment un moment interculturel. Ils étaient en binôme franco-indonésien pour rénover une maison de la nature afin que les enfants de la communauté puissent bénéficier d'apports sur cette thématique.
Des projets à l'international, ça c'est OK, avec des jeunes, mais aussi des projets tout près de chez nous et même dans nos quartiers.
Tout à fait. Aider au local ne nous empêche pas d'aider à l'international. Donc on a à cœur de privilégier notre territoire également.
Quand on se rend compte qu'à Belfort, par exemple, c'est près de 30% de la population qui est en situation de précarité, forcément, ça fait réfléchir et ça donne des idées.
Nous, notre enjeu, c'est de travailler avec ces familles-là qui ne se referment pas sur elles-mêmes et donc de continuer à favoriser ce lien qu'il existe entre les publics, précaires ou non d'ailleurs, et de réaliser des interventions.
Quel genre d'intervention?
Une rencontre au pied des immeubles avec des ateliers, surtout sur la période estivale, le mardi et le jeudi, sur le quartier des Glacis. On va réaliser des animations de rue et aussi des animations nocturnes le jeudi soir. Et ça, c'est conclu en fin d'été par un grand festival qui s'appelle Clôture de l'été, avec des concerts, de la nourriture, des jeux pour les familles, des rencontres et des conférences sur des thématiques, parce qu'on a toujours cette volonté d'avoir un apport éducatif important de façon à essayer d'émanciper le public. Le but, c'est pas de faire à leur place, mais qu'ils apprennent à le faire, plus tard le répliquer.
L'association ne manque pas de projets, du grain à moudre donc pour toutes celles et ceux qui veulent continuer à défendre la solidarité et l'inclusion.
Ici,
actu local, musique et bonne humeur.
Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely.
Et nos podcasts. Un podcast ici de Romardèche.
Bonjour Daphné Michelin.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
On vous pose des questions tous les matins sur le patrimoine et la Drôme Ardèche. Aujourd'hui, on parle d'un trésor mondial, mais très local. Pourquoi, Daphné Michelin, cette grotte mondialement connue s'appelle Chauvet ? C'est un nom d'artiste ?
Pas du tout, Philippe. En fait, si la grotte Chauvet porte ce nom, c'est simplement parce que l'un de ses découvreurs ou de ses inventeurs, eh bien, s'appelait Jean-Marie Chauvet.
Et voilà.
Un agent du ministère de la Culture passionné de spéléologie. Avec ses deux amis, Eliette Brunel et Christian Hilaire, eh bien, ils ont exploré un recoin du cirque d'Estre près de Vallon-Pont d'Arc en décembre 1994.
Donc, il a mis son nom dessus.
Alors, c'est pas lui qui l'a baptisé, en fait. Hein. Le nom Chauvet s'est imposé très vite dans les médias et dans les milieux scientifiques. Car c'était la première personne citée dans les premiers rapports. Ouais, c'est un usage courant d'ailleurs dans l'exploration, le nom du premier déclarant reste.
Bah, j'imagine la jalousie, enfin je sais pas, la grotte aurait pu s'appeler Brunel ou Hilaire, non ?
Alors exactement, on aurait pu l'appeler la grotte Brunel ou même la grotte des trois amis,
bah oui, c'était
mais bien. Chauvet, c'est resté en fait. Ce qui compte, c'est surtout ce qu'elle contient. Hein. Des peintures vieilles de 36 000 ans, lions, rhinocéros, chevaux, mammouths, même un hibou. Hein.
Oui.
C'est l'un des plus vieux chefs-d'œuvre de l'humanité.
Comment ont-ils su que c'était si ancien au moment où ils l'ont découverte ?
Ça, c'est la science. Non, non, c'est un petit peu après.
C'est après qu'on a su
avec la datation au carbone 14. Hein. Et puis l'étude des couches géologiques. Et puis, eh bien, finalement, tout concordé. Et ce bestiaire a été peint à l'époque de l'Homo sapiens. Il a environ 36 000 ans. Et tout ça est resté intact, scellé par un éboulement pendant des millénaires.
Et c'est pour ça.
Et aujourd'hui, la grotte Chauvet 2 permet à tous, eh bien, de découvrir ce trésor sans endommager l'original. Un hommage à la fois aux artistes d'il y a 36 000 ans et aux découvreurs d'aujourd'hui.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Gascogne.
Bonjour, donc je suis Christine, professeure de danse. Je suis installée depuis peu dans les Landes à Basse. J'ai dirigé mon école de danse pendant 30 ans dans l'Est de la France et je suis enchantée de pouvoir continuer ma passion de la danse avec de nouveaux élèves et de créer des moments inoubliables.
Racontez-moi, comment vous êtes entrée dans l'univers de la danse ?
C'est une passion que j'ai depuis toute petite. Je savais à peine marcher, que je montais déjà sur les pointes et j'étais toujours en train de danser, d'enfiler un tutu et de bouger sur tous les styles de musique. Ensuite, j'ai fait de la gym, puis je suis venue rapidement à la danse. Et à 20 ans, je me suis dirigée vers les danses de couple. J'ai fait une formation sur Colmar. C'est une vocation, je pense. J'ai besoin de me rapprocher des gens, j'aime beaucoup le contact, j'avais besoin de ça. Et la danse me permet de réaliser tout ce que j'avais envie de faire. La danse de salon, rock'n'roll, latine sportive, salsa bachata, toutes les danses de couple, c'est un plus de pouvoir partager cette activité en couple. Ça rapproche les élèves, ça rapproche les gens, ça soude les couples, ça rajeunit les retraités. Cette connexion qu'on est toujours obligé d'avoir quand on danse à deux. Qu'est-ce que ça m'apporte, moi ? Parce qu'en plus, j'ai toujours eu des conjoints qui ne dansent pas du tout. Donc c'est pour ça que je ne peux pas parler de mon... Personnellement, c'est un peu compliqué.
Vous semblez fasciné justement par la danse de couple.
Oh,
et vous me dites, je ne le fais jamais avec mon conjoint.
Donc,
c'est un peu paradoxal, non ? avant?
Oui, jamais j'avais un partenaire de danse avant. Les musiques me passionnent déjà, quand ça soit du rock ou que ça soit de la valse viennoise, du tango, j'aime beaucoup. Et après, oui, c'est le travail de chaque pas de danse est complètement différent. Et d'arriver à le faire à deux, c'est magique.
Vous êtes arrivée dans les Landes il y a 2 ans. Quel a été le contexte?
Quand je suis arrivée dans les Landes, je suis allée directement à la mairie, la basse, et j'ai été accueillie merveilleusement bien. On m'a donné tout de suite les clés d'une petite salle de réunion où là je pouvais démarrer des cours de danse. Ce que j'ai fait, et il y a eu tout de suite des élèves parce qu'ils attendaient vraiment des cours de danse de salon. C'est vraiment une grande chance pour moi. Les premiers contacts avec les habitants se sont très très bien passés. On m'a mise à l'aise tout de suite et je suis rentrée dans l'ambiance landaise rapidement avec les petits apéros en fin de cours, la fête et l'esprit très très convivial. Je suis depuis peu sur Dax pour donner des cours de danse de salon et de rock'n'roll. J'attends de nouveaux élèves avec plaisir.
Christine Vouron, j'ai un petit défi à vous lancer. Alors le premier défi serait de m'apprendre à danser le rock.
Aucun problème. Là, vous avec plaisir.
Mais le deuxième défi surtout, c'est de me donner le nom de la radio qui vous a passé le micro ce matin.
Ici Gascogne, bien entendu.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast Ici Occitanie.
Eh bien, dis ça à tous, le mercat de l'Uni ou le mercat des rebelles. Mais en Gascogne toulousaine, c'est prône sur les marcates, avec un A marquette. En Gascogne toulousaine, bah, du côté par exemple de l'île des Baches, c'est l'île Jourdain, pour parler du marché, vous prononcez les marcates. Alors, mais, il y a des marcates à Toulouse, le plus connu certainement le marché Victor Hugo, un lieu emblématique de la ville rose. Là-bas, certains Toulousains achètent auprès de leur boucher charcutier des cansalades. Alors, mais, une questionnette au Kézako, là, la cansalade.
Ce serait pas du jambon?
Pas exactement. La cansalade, c'est de la poitrine de porc salé. Ouais, cansalade, cansalade. Donc, moi, ne pas confondre, attention, avec car salade. La car salade, c'est littéralement la chair salée, donc la charcuterie. Alors, en ce moment, vous êtes nombreux à acheter, surtout, ben, des razines ou d'arrazim. Solide, bien entendu, il s'agit du
raisin.
Du raisin. Ouais. Une précision sur le mot razine qui désigne, et lingonostre, aussi bien le fruit de la vigne, comme en français, que la grappe elle-même.
Et comment on dit alors, je mange du raisin?
Mais vous allez le dire, mangi des razines.
Mangi des razines.
Fort plat, ou minja razim. En revanche, manja ou minja urazine signifie manger une grappe de raisin, pas juste un raisin. Al mercat podes crumpatabez des pumos. Au marché, vous pouvez acheter également, en ce moment, quoi, ben, des pumos.
Des pommes.
Des pommes, manger des pommes.
Belles, ouais.
Mais oui. Des persets ou des persegos. Il y en a encore, j'avais trouvé quelques-unes. Des pêches. Des pêches. Des fragustos, quesaco. Alors ça, c'est pas évident, des fragustes, des framboises, oh, et même des myrtilles, c'est très très bon, d'abajous ou abajous, ça dépend de la prononciation. Bon fin de semaine à toutes.
Ici.
Ici.
Heures du matin, je suis encore réveillé. Je sais bien que demain j'aurai tout oublié. La tête à l'envers, j'arrive plus à penser. Et quand la nuit m'appelle, elle me fait vaciller. Mais dis-moi qui je suis, si jamais je l'oublie. Quand plus rien ne m'attire, que je rêve de m'enfuir. Et je cherche sur la terre. Je voudrais jamais tout changer, jamais tout abandonner. Mais parfois j'ai peur de ne rien contrôler. Je m'endors dans des nuits agitées, impression que je pourrais vriller. Mais tout me rappelle que je dois continuer. Mais dis-moi qui je suis quand plus rien ne m'attire, que je rêve de m'enfuir. Et je cherche sur la terre la raison, la raison. ton aura traversé le temps.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Vaucluse.
Je suis sûr que vous êtes déjà passé devant le château du Barou, sauf que le château du Barou, sans un homme, il serait aujourd'hui inexistant, détruit, entièrement détruit. C'est André Vaison de Pradennes qui l'a sauvé. Il arrive en Vaucluse au début du 20e. Très vite, il s'enracine, il devient conseiller municipal, conseiller départemental, puis maire de Murs pendant près de 4 mandats. André Vaison de Pradennes, c'est un homme public, engagé, décoré de la Croix de guerre 14-18, chevalier de la Légion d'honneur, mais c'est surtout un sauveur de pierre. 3 châteaux vont marquer son existence. D'abord, celui de Murs, dont il devient propriétaire. Ensuite, il y a le château de Javon sur son plateau forestier. Et puis, il y a donc le Barou. L'histoire la plus spectaculaire, quand il prend possession au début du siècle, le château féodal est dans un état catastrophique. Les guerres, les pillages et l'incendie de 1929 ont tout dévasté. Je vous renvoie d'ailleurs à la chronique consacrée sur l'histoire du château du Barou. Et là, donc, André Vaison de Pradennes va se lancer dans une reconstruction titanesque. À l'époque, pas de subvention, pas de mécénat, tout est à ses frais. Et sur 10 ans, il fait travailler 10 maçons pendant 10 ans. On va consolider les murs, refaire les toitures, dégager les salles, restaurer les escaliers. Il va redonner une silhouette, une sorte de colonne vertébrale à ce château qui domine les dentelles. Et c'est ce gros travail, notamment la nouvelle toiture en béton, qui va permettre au château du Barou de survivre lorsqu'il y aura un second incendie en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. Sans ces travaux-là, le château qu'on visite aujourd'hui n'existerait plus. Et puis il y a aussi cette autre facette moins connue. André Vaison de Pradennes était un passionné de préhistoire. Ses travaux aujourd'hui font encore référence. En fait, il a longuement étudié les ateliers préhistoriques autour de Murs grâce aux paysans qui lui rapportaient leur trouvaille contre quelques pièces. Une grande partie aujourd'hui de sa collection a été donnée au musée d'Orsay et c'est loin d'être fini. Aujourd'hui, une biographie est actuellement en préparation par son petit-fils Jean-Baptiste Vaison en collaboration avec un archéologue. Mais la vie d'André, elle, se termine tragiquement. Il meurt accidentellement à Paris, intoxiqué au monoxyde de carbone dans son appartement avec son épouse et sa fille. Seul son fils survit et c'est ce fils qui va prolonger l'esprit du père en protégeant les propriétés familiales. Et aujourd'hui, donc, c'est son petit-fils, Jean-Baptiste, avec Fanny, qui poursuivent cette histoire au Barou, notamment avec la création du premier whisky du Vaucluse, élaboré à l'intérieur même du château.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Azur.
La raison 180 qui s'intitule « De la Riviera à la Côte d'Azur ». Alors aujourd'hui, on va parler de deux noms qui ont marqué notre littoral. Alors certes, pendant longtemps, on disait la Riviera, mais aujourd'hui, tout le monde parle de la Côte d'Azur.
Oui, et puis chez les anglophones, le terme « French Riviera » est resté.
Exactement, et en effet, c'est à partir du XVIIe siècle que l'on commence à désigner sous le nom de « Riviera ». La bande côtière montagneuse qui va de la Spezia en Italie jusqu'au fleuve Var. Étymologiquement, le mot est un emprunt à l'italien et dérive du latin ripa, qui signifie rive ou rivage. Dès la fin du XVIIIe siècle, Nice devient d'ailleurs le premier lieu de villégiature d'hiver de cette côte, alors réputée difficile d'accès. On y découvre la douceur du climat, la beauté du paysage entre mer et montagne, la végétation exotique et le mode de vie local. Et il faut savoir, nous ne sommes pas seuls. Au XIXe siècle, apparaissent d'autres rivieras en Dalmatie, en Crimée et autour des lacs alpins.
Mais aujourd'hui, tout le monde parle de Côte d'Azur.
Et ce terme, on le doit à un homme politique et écrivain bourguignon, Stephen Liégeard. Originaire de Dijon, il séjourne à Cannes l'hiver et publie en 1887 « La Côte d'Azur ». Il décrit de Marseille à Gênes « cette plage baignée de rayons qui mérite notre baptême de Côte d'Azur ». Il va avoir cette voix-là, je suis sûr.
La voix de Stéphane Bern,
oui. D'ailleurs, il publiera quelques années plus tard une nouvelle édition et notera dans son avant-propos « Le dictionnaire s'est augmenté d'un mot ».
Mais alors, pourquoi il a choisi ce nom Côte d'Azur ?
Je vous ai dit qu'il était originaire de Dijon, et oui. Dijon, ça se trouve dans la Côte d'Or. En fait, il a simplement transposé l'idée en l'adaptant à la couleur qui caractérise notre mer et notre ciel, l'azur. Dans les années qui suivent, des guides de voyage reprennent l'expression. Elle devient synonyme de luxe hivernal et de villégiature aristocratique. Puis, dans les années 1920-1930, le tourisme se démocratise, la saison balnéaire d'été se développe et la Côte d'Azur devient l'appellation phare dans les affiches des compagnies de chemin de fer et d'hôtels. Ce sont enfin les offices de tourisme, les communes et le département des Alpes-Maritimes qui renforcent l'usage. Et c'est ainsi qu'on est passé de la Riviera à la Côte d'Azur. Un territoire prestigieux, riche d'histoire et de culture. Et il y a toujours quelque chose à découvrir.
Et ça, c'est une bonne raison d'aimer la Côte d'Azur.
En plein dans le mille.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Picardie.
Ici Picardie propose du lundi au vendredi de retrouver la romancière picarde Karen Ponte qui vient s'éparpiller et nous donner son billet d'humeur tous les jours. Bonjour Karen.
Bonjour. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'acheter un appareil électronique, un téléphone portable par exemple, de le brancher pour le charger une fois rentré chez vous, et là, au moment du démarrage, bim, mise à jour requise.
Ah oui.
Comment ça mise à jour? Mais je viens de l'acheter, il est tout neuf. Et oui, après l'enfer des mots de passe, voici venu le purgatoire des mises à jour, qui sont censées corriger des bugs qu'on n'a même pas remarqués, et améliorer la fluidité d'utilisation de l'appareil, alors qu'on en est toujours réduit à temps le bras en l'air dans nos jardins à la recherche d'une barre de réseau. Oui. Je suis sûre que vous avez tous au moins une fois vécu ce moment où, alors que vous êtes pressé, que vous avez besoin de vous servir d'une application, vous l'ouvrez et là, bim, de nouveau, mise à jour de l'application requise. À croire qu'il y a un algorithme à l'intérieur qui guette le moment où ça nous cassera le plus les pieds. Alors bien sûr, on peut ignorer ce chiffre des mises à jour disponibles, mais si on le fait, arrive ce jour funeste où plus rien ne fonctionne et on est bon pour retourner à l'âge de pierre, c'est-à-dire à l'époque des téléphones filaires. C'était facile au moins à l'époque, on pouvait rien faire d'autre que téléphoner avec nos téléphones, mais au moins ça fonctionnait toujours. Enfin, si on occulte les téléphones à cadran, où est leur manière de nous échapper des doigts au moment du dernier chiffre. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Et donc, ça nous obligeait évidemment à tout recommencer. Je rappelle que la petite boule en plastique au bout des bics de quatre couleurs servait à ça.
Ah mais oui!
À tourner les numéros des cadrans.
Exact.
Je vous dis à demain et d'ici là, rappelez-vous qu'être focus, c'est bien, mais qu'être éparpillé, c'est encore mieux.
Karen Ponte, autrice picarde, qu'on retrouve évidemment avec ses billets d'humeur sur notre site ici.fr.
Ici, actu locale, musique et bonne humeur.
No one can have more than they do. I wanted life, I wanted you. Only the very best, a reasonable request. This is too high a price to pay. Well, take me down, down to hell, for I don't care. They can put me anywhere, throw away the key. Oh. I walked a definite line, cutting a dash, cutting it fine. And once, only once, did I lose control. I gave her my soul, and I gave, and I gave, and I gave her my soul. We'll be right back. was immortal till today. Now I feel a cold decay crawling over me. Over me. No one can have more than they do. I wanted life, I wanted you. Only the very best, no other interest. This is the way you should remain. Your night is here. Mine is drawing very near. Oh, it's getting cold.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Alsace.
La plupart des outils qu'on achète aujourd'hui sont pensés pour mourir jeunes. Oui. Et à l'inverse, ici, on forge des objets qui sont faits pour durer. En cet endroit, le métal chante, l'enclume et le marteau trônent au milieu de l'atelier. Je teste donc pour vous, non pas le métier de forgeron, mais celui de taillandier. Je suis à Eschbach-Roval, sur les hauteurs de Münster, à la taillanderie Luquet. Alors, elle est très discrète, hein. Elle est incorporée comme ça dans un sous-sol d'une maison. Et j'étais très loin d'imaginer ce qui se prépare derrière. Alors, je pousse la porte et je suis très vite accueilli par Soumia. Soumia Luquet, qui s'occupe, elle, de gérer les projets, les commandes et la communication de Simon, son mari, qui, lui, est dans l'atelier. Et de là où je suis, ah bah, ça sent le métal chaud. Oui. Mais il fait quoi, Simon, si c'est un taillandier et non un forgeron? C'est là que Soumia m'explique que tous les taillandiers sont forgerons, mais que tous les forgerons ne sont pas taillandiers. Et un peu comme son nom l'indique, eh bien c'est un artisan qui est spécialisé dans la fabrication d'outils tranchants forgés, comme par exemple des haches ou des ciseaux à bois. C'est bon, c'est clair pour vous aussi? Parfait. Allez, on pousse la porte de l'atelier. Ouh ! Ah bah oui, il fait chaud, oui. Et ça sent le métal. Et il y a des outils, mais alors partout. Et Simon, eh bien il est chaud patate. Oui, il a déjà préparé un outil en cours d'assemblage. Et ça va être à moi de lier l'ensemble. Et cela, sans me blesser, ni me brûler, ni le brûler lui. Enfin bref, grosse pression. Hein. Alors bien évidemment, Simon me montre une première fois. Et frapper le métal incandescent, ah bah c'est pas juste une histoire de force. Ah non, non, non. C'est aussi et surtout une question de précision. Et c'est justement ça, le problème. Alors Simon, lui, il vide juste, bam, le bruit est net. Ça paraît super simple. Oui, ça paraît, oui. Puis il me tend le marteau. Je saisis avec pas beaucoup d'espoir. Mais un seul objectif, réussir à taper le métal. Tape le métal, Maxime, montre que t'es capable. Et c'est avec toute ma détermination que je démarre le geste dans un élan splendide de doute et d'incertitude. Simon, lui, est stoïque. Et en moins d'une seconde, le temps ralentit quand le marteau vient épouser de toutes ses forces l'enclume. Oui, mais pas la pièce qu'il supporte. Bing ! Le marteau rebondit maladroitement. Le bruit sonne creux. Le visage de Simon se crispe avant de sourire.
Un grand moment.
Alors Simon et le marteau, eux, c'est une grande histoire qui est d'ailleurs reconnue par ses pairs, hein, parce que Simon a d'ailleurs collaboré à la fabrication des haches de charpente traditionnelles qui ont été utilisées pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Bah, la classe quand même.
La maison Luquier propose d'ailleurs des stages immersifs accessibles même aux débutants. Oui, 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 à tous les débutants, même les plus maladroits. La preuve, je me suis même pas blessé. Et ça, franchement, c'est balèze.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Creuse.
En arrivant dans le bourg de Gouzon, vous passez devant le centre de loisirs qui accueille des pitchounes quand il n'y a pas école. Mais c'était quoi avant l'accueil de loisirs ?
garderie municipale.
Je m'appelle Liliane.
Je m'appelle Martine.
Le centre d'accueil, eh ben, c'est... normalement c'est là-bas.
Là-bas, où il y a, où il y a les volets bleus.
Voilà. Et avant, c'était quoi où il y a les volets bleus?
L'ancienne gendarmerie, mais il y a très 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 longtemps. Quand j'étais gamine, je crois. Oh non, je ne l'ai pas connue, moi.
Moi, je l'ai connue. Enfin, mais je suis plus âgée que toi.
Bonne journée. Je suis en voiture avec...
Michel.
Ça vous dit un truc, vous, l'accueil de loisirs dans Gouzon?
Alors, pas du tout. Aucune idée. Bonne journée.
Bonne journée. Je rentre dans le supermarché pour rencontrer Magali.
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous pouvez m'en parler, vous, de l'ancienne gendarmerie qui est maintenant l'accueil de loisirs dans Gouzon?
Ah non, je suis désolée, je suis trop jeune pour ça.
Bonjour Martine.
Bonjour Marina. Avant, c'était une gendarmerie. Donc, il y avait déjà du bleu, mais ce n'était pas le même bleu. C'était le bleu gendarme. Cette gendarmerie faisait partie de notre quotidien, puisque mes grands-parents paternels habitaient juste en face. Je voyais les gendarmes qui nous souriaient, qui nous... Et maintenant, la gendarmerie est partie rue des Poiriers. Alors là, c'est le petit jardin de l'ancien hôtel Bignet, mais on voit également le jardin de la gendarmerie qui fait partie maintenant du jardin du centre de loisirs.
Et c'est depuis quand que c'est un centre de loisirs?
Je pense qu'en effet, il a fallu attendre que la communauté de communes soit créée, et ça c'est 1992, puisque le centre de loisirs est relié à la communauté de communes. Donc on est bien à la fin des années 90, on est dans les années 2000.
Pourquoi les gendarmes sont partis de là?
Parce qu'on a construit, parce que c'était vraiment pas pratique. Vous allez, si vous rentrez dedans, vous verrez l'escalier est très très inconfortable, minuscule. Alors je sais pas, il fallait pas être bien gros.
Donc c'est mieux d'y mettre des petits.
Oui, mais les petits ne montent pas vraiment en haut non plus. Hein. Les plus grands font des activités, par exemple, de musique, je sais, en haut. Mais là, il y avait vraiment besoin de construire une autre gendarmerie. Donc, elle est partie là-bas, rue des Poiriers. Et maintenant, elle va encore redéménager et s'en aller du côté de l'Aiguillon. Il est arrivé un petit événement à ma grand-mère paternelle qui avait sa chambre au rez-de-chaussée dans la maison juste en face donc, de la gendarmerie. Et qui, en allant se coucher, a trouvé... elle avait dû laisser la porte ouverte, a trouvé un SDF qui était couché dans son lit. Et donc, ma grand-mère, complètement affolée, ça on peut le comprendre, ouvre la fenêtre de sa chambre et hurle « Au secours, les gendarmes, au secours, venez vite !» Et du coup, en habitant en face, elle a été secourue tout de suite.
Merci Martine. Bon, maintenant, vous saurez que l'accueil de loisirs à Gouzon accueillait avant les gendarmes.
Ici, la nuit... On prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast Ici Lorraine.
Depuis près de 50 ans, Claude Poésy consacre une grande partie de sa vie au Hackenberg. Aujourd'hui, nous accueille comme on ouvre la porte de sa maison pour parler d'engagement, de mémoire et de transmission. Bonjour Claude.
Oui, bonjour à tous.
Vous aviez 13 ans quand vous êtes entré pour la première fois au Hackenberg. Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti ce jour-là?
Je suivais mon père qui était également bénévole et qui venait... aider à faire des travaux de construction au Hackenberg. C'est au cours de ces entretiens qu'on a vu le trésorier de l'association, qui était aussi l'instituteur du village, qui cherchait des jeunes pour aider le week-end à accueillir les visiteurs.
Est-ce qu'il vous arrive encore d'être impressionné par ce lieu malgré toutes ces années?
Toujours. Alors le lieu est phénoménal. Hein. On a une partie visitable qui est entretenue depuis 50 ans, mais il y a aussi toute une partie est qui est non visitable et où les affres du temps font énormément de dégâts. Et on y était encore tout dernièrement pour voir que les dégâts progressent, le temps n'y fait rien. Et ça se désagrège de plus en plus.
Quand vous guidez des visiteurs, Claude, quel moment vous touche le plus dans leur réaction?
Ce qui me touche le plus, c'est quand ils comprennent enfin l'utilité de la ligne Maginot. En arrivant, ils arrivent très souvent avec une idée préconçue, ça a coûté cher, ça n'a pas servi à grand chose, les Allemands nous ont contournés, en 2 mois, la guerre était finie. Et au fur et à mesure qu'on leur explique ce qui s'est passé avant, la Première Guerre mondiale, les pertes humaines, les nombreuses pertes humaines, jusqu'à 1 300 000 tués, 4 millions de blessés, de défigurés, progressivement ils comprennent que les soldats qui sont arrivés au Hackenberg étaient à l'abri, étaient protégés, contrairement à ce qu'ont vécu leurs pères dans les tranchées. Et on sait donc que cette fortification était là pour protéger non seulement la région, les industries, mais aussi les hommes, puisqu'on n'avait plus assez de soldats.
L'association Amifort, dont vous êtes le président, existe depuis 50 ans. Quand vous regardez dans le rétro, en arrière, de quoi êtes-vous le plus fier?
Je suis fier du parcours de tous nos bénévoles. On a accueilli ici des jeunes comme moi à 14, 15, 16 ans, et qui ont eu des parcours de vie ensuite, qui sont allés travailler ailleurs, qui sont partis parfois à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Et on a toujours quelques nouvelles de loin d'eux. Et le fait qu'ils aient commencé au Wackenberg à assurer l'entretien avec nous, à faire des petits travaux, à être dans une équipe soudée, ça leur a permis une évolution de la vie également.
On vous souhaite encore de nombreuses années au sein de l'association Amifort, Claude de Poésie, puis un grand merci à vous d'avoir été notre Lorrain du jour.
Merci à vous, et puis n'hésitez pas à vos auditeurs de venir voir ce qu'on fait, qui sait, peut-être participer à l'aventure.
Ici,
actu local, musique et bonne humeur. Oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici au Serre.
Itinéraire bis à Joigny cette semaine. Aujourd'hui, je vous propose de vous arrêter aux couleurs Le Roux. Marcel Reynaud, bonjour.
Bonjour.
Ces couleurs Le Roux, il y a toute une histoire, Marcel, derrière.
Oui, c'est une longue histoire qui dure depuis 115 ans.
avec différentes étapes, différents mouvements de peinture aussi parmi les clients. Certains participent à l'histoire de l'art.
Les caractéristiques de ces couleurs, quelles sont-elles ?
Le roux est un très très haut de gamme, donc en fait ça vient d'un taux de pigment dans le tube, dans la couleur. Ce sont des pâtes traditionnelles telles qu'on avait au 15e siècle, au 16e siècle, etc. Donc rien n'a changé de ce côté-là. En fait, c'est le respect du pigment avec un très bon broyage, une très bonne huile de lin ou une huile aussi de yette, qui est donc du coquelicot. Et on respecte la tradition, on est la meilleure marque, je pense, sincèrement, en France, ça c'est sûr, et peut-être en Europe aujourd'hui.
Respecter la tradition, ça veut dire que ces couleurs, ces peintures, sont faites à la main ?
Quasiment. Alors le broyage, lui, n'est pas fait à la main, parce qu'il faut une force considérable. Donc en fait, depuis un peu plus d'un siècle maintenant, les couleurs pour artistes se font à l'aide de broyeuses qui pressent la pâte, le pigment, donc jusqu'à avoir une pâte homogène. Et cette pression par les rouleaux est fantastique. Ça a même amélioré la peinture à l'huile par rapport à ce qui se faisait dans le temps.
Comme la cuisine, il y a de vraies recettes.
Ah oui, ça, oui, oui. Chaque pigment a sa propre recette. Ça, c'est très important, puisque suivant la composition chimique du pigment, la prise d'huile, ce qu'on appelle, n'est pas la même du tout d'une couleur à une autre. Et même, quelquefois, sur la même veine chimique, par exemple, bleu outremer clair et bleu outremer foncé, qui sont très proches au niveau du ton, les quantités d'huile, la quantité d'huile pour chacun de ces pigments n'a absolument rien à voir, le temps de broyage non plus.
Des peintres, des artistes qui font confiance ou qui ont fait confiance aux peintures Le Roux ?
Il y en a beaucoup. Dans les plus célèbres, évidemment, que tout le monde connaît, il y a Dali, il y a Picasso. Aujourd'hui, on a Anselm Kiefer, qui est un peintre allemand qui vit en France, qui est mondialement connu. On a aussi des peintres extraordinaires, comme Eugène Leroy. Et en plus, c'est un peintre qui travaille beaucoup en matière. Et on se rend compte aujourd'hui qu'aucune toile n'a bougé. Alors qu'il y a 1 ou 2 centimètres d'épaisseur sur ces toiles. Et absolument aucun dommage sur ces toiles actuellement. C'est parfait.
D'ailleurs, nous, il y a l'atelier, et c'est un atelier assez extraordinaire, hein, quand même.
Ben oui, déjà, l'atelier, les outils qui sont dedans, certains ont plus de 80 ans. Les broyeuses ont plus de 50 ans maintenant. C'est dans son jus. C'est un musée vivant, hein. Et ça le restera. C'est très haut de gamme. Il y a une âme. Je pense qu'on ressent une âme. Qu'on soit peintre ou pas, quand on rentre dans cet atelier, on sent qu'il y a quelque chose, quoi.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici, Pays de Savoie.
Philippe et Jean-Noël de Paris, ce sont les frangins les plus connus de Savoie et de Haute-Savoie. Ils parcourent la région avec leurs caméras, nous racontent chaque jour leurs rencontres les plus marquantes dans la place du village. Aujourd'hui, Philippe, rencontre et dégustation au programme en Haute-Savoie à Balaison.
Balaison, dans le Bas-Chablais, on domine le lac Léman. Et là, nous rencontrons Henri Détourche. Il est viticulteur, producteur d'un vin tout à fait exceptionnel. Un vin qui est déjà appellation depuis 1948. C'est le fameux Crépy, ah, évidemment. Oui. Aujourd'hui, on le connaît sous le nom de l'AOP, appellation d'origine protégée. Vin de Savoie Crépy aujourd'hui. Et Henri nous rappelle que le Crépy a été un temps la seule appellation d'origine contrôlée en Pays de Savoie avec un autre vignoble très connu, Laurent.
La Roussette.
La Roussette de Frangy, bravo.
Eh oui. Alors, c'est quoi le Crépy ?
Alors le Crépy, c'est d'abord un cépage Chasselas. On l'a déjà dit, mais un cépage qui se plaît énormément sur les bords du Léman, vu les conditions climatiques. Et Henri nous explique qu'il s'agit d'un cépage de première époque, qui a un cycle de végétation très court. Et comme on est à 500 mètres d'altitude, il lui faut beaucoup de soleil, qu'il soit bien exposé, contrairement au cépage Chardonnay, Laurent, que vous connaissez aussi. Et là, on trouve le Crépy uniquement sur 3 communes, Douvaine, Balaison et commune d'à côté, Laurent, peut-être.
Ça doit être Loisin.
C'est bravo. C'est Loisin à côté, 3 communes. Et en tout, il y a 85 hectares de production de ce bon Crépy. Henri nous explique qu'il y a aussi des contraintes de production. Ils doivent produire pas plus de 72 hectolitres à l'hectare. En gros, 85 hectares, 72 hectolitres, faites le calcul, c'est 4000 à 4500 hectolitres crépis par année, c'est le calcul.
J'ai jamais été bon dans ce genre de calcul. Hein. Quelles sont les qualités du crépi ?
Je vous veux dire, Laurent, c'est un vin tranquille. C'est un vin blanc qui n'est pas pétillant, comme vous. C'est un vin à boire rapidement. Attention, un vin frais, comme on dit, il faut le boire dans les 2 ans qui suivent la mise en bouteille. Ah. Parfois, il se boit encore un peu plus vite.
C'est pas un vin de garde, alors.
C'est pas un vin de garde, pas du tout. Il ne faut pas attendre pour le boire, nous dit-il. C'est un vin léger, qui a un goût, tenez-vous bien, de pierre à fusil, on aime ces expressions-là, ou de violette, selon les années, et parfois même, Laurent, il sent l'aubépine, l'abricot, ou même la brioche. Imaginez.
On peut le prendre au petit déjeuner, c'est ça?
Au petit déjeuner ce matin, pour votre matinale. Ouais. C'est un vin extrêmement agréable, qui se boit facilement. Et c'est surtout pas un vin gras, nous dit-il. Un vin gras, ça nous fatigue, nous dit Henri. Et il s'accompagne merveilleusement bien des poissons du lac, des filets de perche, des fondus, des raclettes. Et aujourd'hui, ce domaine continue, domaine de Sénoche, famille d'Étourges. Ils sont en agriculture bio. Voilà, tout sur le vin. Crépy, le bon vin à consommer avec
modération.
Évidemment.
Et pour découvrir d'autres figures rencontrées par Jean-Noël et Philippe de Paris dans la place du village, rendez-vous sur ici.fr.
Écoutez Ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast Ici Drôme Ardèche.
Voici une carte postale. Nous sommes à Sainte-Eulalie, dans l'atelier de Mathieu. Il représente sans doute le dernier artisan losier-couvreur de la montagne ardéchoise. Son travail capte notre attention lorsque nous croisons une maison traditionnelle dont le toit est recouvert de lauzes naturelles. C'est un métier physique avec un savoir-faire peu commun, un engagement pour la conservation d'un patrimoine exceptionnel. Et pour lui, c'était un peu écrit dans son arbre généalogique.
J'étais dans une famille de couvreurs. Mes oncles, en gros, j'ai eu 7 oncles qui étaient couvreurs. Et du coup, mon père, depuis tout petit, j'ai appris à poser la loze de schiste et l'ardoise de Corrèze. Et c'est pour ça, du coup, je suis venu m'installer après en Ardèche. Chez nous, ça, voilà, cette bleu clair, elle vient du côté de Boré. Et chaque lieu avait leur loze. Alors après, il y a plein de toitures, ils sont mélangés, ils ont mis de la bleue qui n'avait rien à voir chez nous. Ils trouvaient les lozes là où ils pouvaient les trouver, quoi. Ah ouais, c'est voilà, ça. C'est tout. Donc ça, en fait, le plus gros du travail, c'est la taille. Après, on est lié au climat. Hein. Quand il fait trop froid, c'est pareil. On peut pas la tailler parce qu'elle est gelée, la pierre. Alors, du coup, elle explose. Quand il fait des grosses canicules, la loze bleue, on la tient pas dans les mains. C'est particulier, quoi. Ça.
Et les avantages?
Mais après, ça dure très, très, très longtemps. On a des toitures, là. J'en ai une énorme à refaire. Elle date de 1000. La grange date de 1648. Et la loze est d'origine dessus. Après, il peut grêler, il peut faire du vent, tout ce qu'on veut. Ça bouge pas.
Vous savez à quel moment vous vous êtes dit, tiens, je vais devenir artisan loseur?
Je sais pas, je crois que j'ai pas trop eu le choix. Je sais pas, c'est vrai que ça se pose pas trop, parce que vu que je suis né là-dedans, avec mon père, et mon père les taillait, et avec ma mère, on les calibrait par taille, et j'ai toujours été là-dedans, quoi.
Très tôt, vous avez des outils dans les mains?
Les premiers outils, je devais les avoir, ouais, c'est 7-8 ans. Pour ça, il y en a, ils me disent, mais t'es jeune encore, tu peux en faire. J'ai dit oui, mais j'ai attaqué très très jeune, alors tant que le dos suit, c'est bon, mais faut s'économiser, quoi.
Pourtant, vous avez vu votre papa faire ce métier qui est quand même très dur, très physique, et ça vous a pas arrêté?
Oh non. Surtout qu'à l'époque, il fallait les monter à l'échelle. On n'avait pas d'élévateur, tout ça. Et c'est que la dureté du métier, je pense, c'est ce qui nous forme. Alors après, c'est vrai que si j'aurais pas aimé ce métier, je pense que je dois abandonner de suite.
Alors, depuis une paire d'années, Mathieu s'implique dans l'ALC, une association nationale pour former de jeunes losiers. Je vous mets le lien sur notre site internet.
Ici. We will fight.